Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous suivez le programme de Studio Tamani en direct de Kaya. Il est 18h. Voici les titres de ce journal. Réunion du comité de défense nationale. Le président de la transition se réjouit du bilan. Quelque temps après cette rencontre, deux personnes ont été tuées dans une attaque contre le village de Sinzana. Espace d'interpellation démocratique, la 22e édition démarre ce samedi à Bamako. Plus de 300 dossiers des plaignants seront présentés. Lancement de la confection de la carte d'identité nationale biométrique par les autorités de la transition. Cette carte remplacera la carte d'électeur, la carte NINA et la carte d'identité nationale. Le développement de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté, Mamadi Keita assure la technique. Bonsoir à tous et bienvenue. Le comité de la défense nationale s'est réuni hier à Koulouba. Le président de la transition et les différents chefs d'état-major de l'armée ainsi que les directeurs de services ont échangé sur la situation sécuritaire du pays. Ils ont aussi évoqué les perspectives visant à contenir le phénomène de l'insécurité dans les zones infectées. Les détails avec Fatih Yattara.
Le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Camara, a présenté le bilan des acquis depuis août 2020 à nos jours. Le président de la transition s'est réjoui des résultats obtenus. Selon lui, ces acquis révèlent à suffisance le dévouement des forces de défense de la nation ainsi que l'efficacité des moyens de combat terrestres, aériens mis à leur disposition. Cette dynamique a permis, selon lui, des avancées significatives en matière de sécurisation du pays. Dans son discours, le président de la transition a fait un tour d'horizon des problèmes auxquels le Mali est confronté, notamment des campagnes de manipulation de la part de certains anciens partenaires. Ses collaborateurs, mécontents de la dynamique enclenchée pour la stabilité et le développement de la nation, tentent par tous les moyens de déstabiliser le pays, a-t-il ajouté. Le colonel Assimi Goïta a invité les forces de défense et de sécurité à résister aux tentatives regrettables et de se concentrer davantage sur les objectifs de sécurisation. Le président reste toutefois intransigeant sur la protection des droits humains. Selon lui, le respect des droits de l'homme est un impératif.
Et quelque temps après cette réunion, des hommes armés non identifiés ont attaqué le village de Sinzanagar à 30 km de la région de Ségou hier soir. L'attaque aurait fait deux morts, tous des civils et un gendarme grièvement blessé. Ce bilan a été rapporté par les autorités locales qui demandent de l'aide au gouvernement et aux forces armées. Écoutons le témoignage de cet habitant qui a requis l'anonymat. Il est joint par Alima Yattara.
C'est hier soir entre 19h et 20h que des hommes armés sont venus avec les motos, mais ils ont laissé les motos un peu à distance du poste de contrôle. Lorsqu'ils sont arrivés à pied et ils se sont garés de l'autre côté du goudron. Le poste de contrôle est situé à l'ouest du goudron et ils se sont mis à l'est et fait face aux autorités à la gendarmerie. Et directement, il y a un gros véhicule qui a passé. Et aussitôt que ce véhicule a passé, ils ont commencé à tirer. Il n'y avait que trois personnes sur place, un gendarme et plus deux civils. Les deux civils ont été vraiment abattus sur le coup. Le gendarme a été blessé un peu grièvement. Et ça fait très longtemps que je signalais la présence de ces
Vous suivez toutes ces informations en direct de Kaya et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le gouvernement a lancé la confection de la carte d'identité nationale biométrique. Elle est produite sur la base du fichier de la carte NINA, numéro d'identification nationale. Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, cette nouvelle carte est multifonctionnelle et va remplacer la carte d'électeur, la carte NINA et la carte d'identité nationale. Il ajoute aussi que la carte biométrique permettra aux Maliens de voyager librement dans l'espace CDAO. La 22e édition de l'espace d'interpellation démocratique se tiendra demain samedi au Centre international de conférences de Bamako. Plusieurs dossiers seront exposés au grand public pour espérer une issue heureuse. Selon les responsables du bureau du médiateur de la République, plus de 300 dossiers des plaignants ont été déjà reçus. Le secrétaire permanent Amadou Diallo nous confie qu'une grande majorité de ces interpellations portent sur le foncier. Il est au micro de Kwan Diara.
Cette année, sur l'ensemble des dossiers qu'on a reçus, c'est 334 dossiers. Et sur les 334 dossiers, 28 ont été retenus qui seront lus demain. Et sur les 28, il y a déjà un dossier qui est réglé qui ne sera pas lu dans la salle. Et d'autres sont en train d'être réglés. Maintenant, au-delà de ça, sur le restant là, il y a 215 dossiers qui ont été retenus pour suite à donner. Il y a le problème de carrière, d'allocation familiale, des lenteurs administratives. Il y a beaucoup d'autres questions que les gens sauront à travers la lecture des dossiers.
Est-ce qu'une une suite est donnée aux interpellations.
L'année passée, il y a eu beaucoup de dossiers satisfaits. Cette année aussi, en plein salle de dépouillement des dossiers, on a eu 7 dossiers satisfaits.
Autre sujet, ce vendredi 9 décembre marque la journée internationale de lutte contre la corruption. Au Mali, des associations de lutte contre le fléau affirment que le combat contre la corruption est loin d'être gagné. Elles estiment que la pratique est visible dans toutes les structures. Moussa Ousmane Touré est le président de l'association de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Il est joint par Madougou Hamada.
Vous n'êtes pas sans savoir que la corruption au Mali, elle est présente malheureusement aussi dans tous les secteurs. La lutte n'a pas malheureusement été gagnée. D'abord, il faut une réelle volonté politique de s'attaquer à ce fléau. Il faut également, à la tête des structures étatiques de lutte contre la corruption et la délinquance financière, des hommes irréprochables. Il faut une société civile forte. Il y a des oppositions aux efforts en cours et fait allusion aux arrestations que d'aucuns ont eu à qualifier d'arbitraires. Également, il faudra de la dénonciation, il faudra que les citoyens commencent à rejeter aussi la corruption, à dire que la corruption ne passera pas par eux.
Parlons éducation. Le lycée public de Kaya a été créé en 1975. Il porte le nom de Dougou Kolo Konare qui a joué un rôle important en milieu scolaire à Kaya. Jadis un lieu de savoir reconnu, l'établissement manque aujourd'hui de personnel, d'infrastructures sportives, entre autres. Mahamadou Samba Diallo s'est intéressé au sujet.
Le lycée public était reconnu comme un haut lieu de savoir. Plusieurs hauts cadres du pays sont passés par l'établissement. Sekou Tahara Traoré s'en sert du lycée.
Monsieur Konare était un instituteur exemplaire reconnu dans la ville. Et je pense même qu'il a été le premier inspecteur de l'enseignement fondamental ici à Kaye. Donc c'est à reconnaissance de tout cela que les autorités ont décidé de lui donner le nom du premier lycée régional. Dougou Konare était d'abord un lycée régional avant la création des autres lycées de la région.
Aujourd'hui, l'endroit semble vesti et connaît d'énormes difficultés. Le censeur nous explique.
Quand on parle de difficultés, d'abord, il faut parler des ressources humaines. On n'a pas assez de personnel enseignant, ce qui fait qu'on est souvent obligé de faire recours à des vacataires. Donc, il y a certaines matières qui sont très, très essentielles, comme les langues nationales, où il n'y a pas un seul professeur de langue nationale. Il n'y a pas d'infrastructure sportive. On est souvent confronté aussi à des problèmes de photocopieuses.
Le lycée de Gokolo possède aujourd'hui 112 personnes au sein de l'administration et 2840 élèves.
Parlant toujours d'éducation, don de 397 vélos aux élèves filles de l'école fondamentale 2 de Kaye, la remise symbolique a eu lieu hier. L'objectif, selon les donateurs, est de promouvoir la scolarisation et le maintien des filles à l'école dans la région de Kaye. L'initiative est de l'ONG Fandema. Parents d'élèves et autorités régionales ont salué le geste. Tous les enseignants de Yuwaru sont en arrêt de travail depuis ce jeudi. Ils dénoncent le comportement du conseiller à l'orientation du CAP. Selon le porte-parole du syndicat des enseignants, le conseiller à l'orientation procède à des mutations arbitraires, des redéploiements des enseignants et prend des décisions unilatérales. Les enseignants n'entendent reprendre les cours qu'après le départ du conseiller. Les parents d'élèves inquiets interpellent les autorités à trouver une solution au problème. De Bamako à Menaka, en passant par Kuchala et Kadjolo, les multiples grèves des différents corps professionnels préoccupent certains citoyens. Même s'ils sont conscients qu'il s'agit d'un droit fondamental, ces populations invitent les acteurs à revendiquer tout en restant à leur poste. Au gouvernement, elles demandent de respecter ces engagements. La rubrique « On en parle » est réalisée par Mariam Koulibaly.
C'est légitime. Je trouve que la période n'est pas du tout indiquée.
L'idéal, c'est la négociation pour aboutir, de ne pas souvent perturber encore sur tous les cours.
Pour nous, à Kuchala ici, ceux qui ont suspendu leur grève, c'est une bonne idée et une bonne initiative.
Nous sommes à Kuchala ici. Que l'État respecte ses engagements.
Et ici à Kadjolo, nous sommes. Personnes qui sont détenues aux prisons, si leur jugement est prévu, par exemple, pendant les moments du grève, ça va jouer sur eux.
Ces grèves sont récurrentes tout simplement parce que l'État est affaibli aujourd'hui.
Pour moi, quand même, c'est pas bien. Nous, on veut étudier seulement. Il y a des grèves. Ça perturbe les cours. Et puis, on ne peut pas faire le programme de toute l'année.
Le sommet ordinaire de la CEDEAO, la multiplication des grèves et la reprise de service du Premier ministre Choguel Kokalamaïga ont été entre autres sujets phares de l'actualité de la semaine. Le résumé de ces sujets avec Aboubacrine Ag Mohamedine Yattara.
Nous commençons par le retour du Premier ministre Choguel Kokalamaïga après 4 mois de retraite médicale. Le chef du gouvernement a fait la passation de service avec son intérim colonel Abdoulaye Maïga. Celui-ci est désormais nommé ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Le dimanche 4 décembre dernier, la CEDEAO a tenu son 62e sommet ordinaire à Abuja, au Nigeria. Dans le communiqué final publié mardi dernier, l'organisation encourage le processus de transition au Mali. Les dirigeants ouest-africains ont également annoncé la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et établir l'ordre constitutionnel en cas de coup d'État. Nous terminons par le front social. Alors que les magistrats ont suspendu leur mot d'ordre de grève, les syndicats d'enseignants et des médecins annoncent des arrêts de travail.
Le grand dialogue, c'est dans quelques minutes. Bonsoir, Mariam Maïga.
Bonsoir, Assetou Kanté.
Alors, ce soir, vous allez aborder quel sujet ?
Sport, quels défis et opportunités pour la région de Kayes ? C'est le thème de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Et pour en parler, nous avons 3 invités. Abdoulaye Koulibaly, acteur du football à Kayes. Fatamba Sissoko, ancien fonctionnaire retraité de la Direction régionale des sports. Sylvain Konaté, journaliste sportif à Kayes. Et je rappelle que cette émission se fera en langue nationale bamanankan.
Merci Mariam et très bon débat. Et c'est ce soir que prend fin ce programme de délocalisation des programmes de Studio Tamani ici à Kayes. Restez à l'écoute jusqu'à 19h pour la suite du programme. Studio Tamani, la proximité avec toutes les voix du Mali. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant sur Viamo au 37 321. Tout de suite, le magazine. Saviez-vous qu'il existe une différence entre un économiste et un comptable ? Le magazine Économie s'intéresse aujourd'hui à ces deux spécialités qui prêtent souvent à confusion. Le comptable veille à la bonne tenue des comptes et des finances de son entreprise, tandis que l'économiste s'occupe de la bonne gestion des richesses et une répartition équitable entre l'État, les ménages, les banques, entre autres. Le magazine Économie est réalisé et présenté par Imerana Kilou Maïka.
Les comptables ont pour rôle l'enregistrement et le classement de toutes les informations sur l'activité économique, le patrimoine incorporel, matériel et financier d'une entreprise. C'est dimanche l'explication donnée par Faisal Mouroumaïga, comptable de formation.
Il est aussi le garant des comptes de l'entreprise. Il doit respecter et faire respecter les recommandations de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière au sein de son entreprise. C'est lui qui doit suivre aussi le relevé bancaire, c'est-à-dire que celui qui doit faire l'état de rapprochement de son entreprise. Il est aussi l'interlocuteur entre son entreprise et l'administration fiscale, parce que c'est lui qui doit faire les déclarations fiscales et sociales, c'est-à-dire qu'il doit payer les impôts et taxes.
De son côté, Faradji Dedem Maïga ajoute que le comptable occupe un poste stratégique au sein d'une entreprise ou d'une société.
Si l'entreprise obtient des contrats, par exemple, sur ces contrats, on doit payer aussi les droits d'enregistrement. Donc, c'est le comptable qui dit oui. Une fois qu'on conclut un contrat avec un partenaire, on doit enregistrer ce contrat parce qu'il y a, dans les comptes, il y a toujours les côtés finances, il y a les montants. Ce contrat, c'est telle valeur, il y a la TVA, il y a les montants hors taxes, il y a les montants.
Par contre, un économiste observe et analyse la richesse de la société. Il essaye de répondre à des questions, notamment comment cette richesse est-elle répartie, comment est-elle créée, qui consomme et comment. Khalid Dembélé, économiste.
En fait, c'est quelqu'un qui est à la réflexion de comment résoudre les problèmes économiques du pays, notamment la cherté de la vie, notamment les problèmes du chômage. Ces solutions-là, même si ce sont les politiques qui gèrent le pays, les solutions-là sont proposées par qui ? Par les économistes. Donc, son apport de la société, c'est trouver des solutions aux problèmes quotidiens des individus qui vivent au sein de cette société.
Les économistes proposent également des politiques économiques permettant à l'État d'influencer l'activité économique du pays. Mohamed Gara, économiste.
Et on fait cela parce que tout simplement, les richesses sont rares et doivent être judicieusement utilisées. Cela va consister à donner, par exemple, des orientations à un État en termes de politique économique à mettre en application au regard d'un contexte donné. Dans un contexte de pandémie, par exemple, voilà, l'économiste peut proposer une politique d'accompagnement, une forme d'assouplissement des impôts, des taxes à payer à l'État.
À noter que les comptables et les économistes aide les entreprises et même les pays à prendre des décisions financières judicieuses.